Chapitre 26. La femme grimpe dans la cabine et ferme la portière derrière elle. Jeannette attend un moment dans le noir à écouter les grincements des ressorts du siège à l'intérieur. Des feux de croisement balaient le sol et les ombres se dérobent immédiatement. De l'autre bout du parking, lui parviennent des rires et une musique assourdie. Une femme crie quelque part. Elle semble ivre et remontée. Jeannette regarde sous la remorque. Au loin, quelqu'un laisse tomber une cigarette. Des étincelles s'éparpillent sur le bitume. Quelqu'un les éteint. Elle perçoit un mouvement de l'autre côté. On dirait quelqu'un qui rampe vers elle à quatre pattes sous les poids lourds et les remorques. Des frissons lui parcourent le dos jusque dans la nuque et elle part en direction du restaurant. Un camion entre sur le parking et s'arrête dans un grincement de frein pour la laisser passer. Jeannette ne parvient pas à capter le regard du routier, mais elle s'avance quand même sur la chaussée dans la puissante lumière des phares. Elle s'approche du restaurant et se retourne. Personne ne la suit. Jeannette marche plus calmement. Elle se dit qu'elle va enlever le collant déchiré et nettoyer la coupure sur sa jambe avant d'appeler Saga sur son portable. Dans le bloc sanitaire, les toilettes sont toutes occupées. Elle examine sa blessure. Le sang a coulé sur son tibia avant de coaguler autour de la plaie. La porte métallique d'une des cabines s'ouvre et une femme blonde en sort, un téléphone collé à l'oreille. Elle crie qu'elle était avec un client, qu'elle ne peut pas tout faire en même temps, avant de disparaître en direction des poids lourds en gesticulant avec véhémence. Un bout de papier écrit à la main, scotché sur la porte, annonce « hors service », mais Jeannette y entre quand même et verrouille derrière elle. C'est une cabine pour handicapés avec de minces cloisons en tôle. Les accoudoirs blancs sont relevés et un bouton d'alarme rouge est installé près du sol. Elle enlève son collant et le jette à la poubelle parmi des préservatifs usagés. Du papier toilette mouillé jonche le sol et les cloisons sont recouvertes de graffitis. Jeannette se regarde dans la glace et sort son poudrier du sac à main, se penche au-dessus du lavabo et entend quelqu'un bouger dans le compartiment voisin. Un corps qui se déplace dans un espace réduit. En se poudrant le visage, elle voit dans le miroir un trou rond à 1 mètre du sol dans la cloison qui sépare les cabines. Le distributeur de papier toilette était peut-être accroché là. Elle range le poudrier et se retourne, constate que la cloison gondole un peu. La personne de l'autre côté s'appuie dessus. Il y a un froissement de papier, puis un billet de banque plié apparaît dans le trou et tombe sur le sol. La cloison craque légèrement. Jeannette est sur le point de dire quelque chose lorsqu'un gros sexe émerge, pendouillant par le trou devant elle. La situation est tellement absurde qu'elle en sourit. Elle se souvient d'avoir lu un article sur des clubs échangistes en France qui proposent ce genre d'aménagement. L'homme de l'autre côté la prend pour une prostituée. C'est complètement dément. Elle reste immobile un instant, déglutit, fixe le sexe et sent les battements rapides de son cœur. Elle vérifie que la porte est bien verrouillée. Lentement, elle tend la main et la referme sur le membre gros et chaud. Elle le serre doucement et le sent se raidir et commencer à se dresser. Elle fait quelques allers-retours avec sa main avant de le lâcher. Sans savoir pourquoi, elle s'accroupit et prend le sexe dans sa bouche, le suce lentement et le sent encore grossir, durcir. Elle s'arrête et reprend son souffle, se redresse, passe la main entre ses jambes, baisse sa culotte et l'enlève tout en pressant le membre raide. Elle s'efforce de respirer en silence, se dit qu'il faut qu'elle s'arrête, qu'elle ne peut pas faire ça, qu'elle est folle. Son pouls bat dans ses tempes. Elle se retourne et prend un puits avec une main sur le réservoir de la chasse d'eau. Ses jambes tremblent quand elle se met sur la pointe des pieds, incline le sexe vers le bas et le laisse glisser en elle par derrière. Elle halète et regarde le verrou de nouveau. La cloison en tôle craque quand les coups de rein de l'inconnu projettent Jeannette en avant. Elle se tient au réservoir et pousse ses fesses contre le métal frais. Assise en face de Tamara dans un des box du restaurant, Saga attend pendant que la droguée mange ses frites. Un filet de morve transparente scintille sous son nez. Loin sous le pont, la circulation s'écoule sur l'autoroute. Lumière blanche dans un sens, lumière rouge dans l'autre. Tu la connais bien, Sofia Stefansson ? Demande Saga. Tamara hausse les épaules et aspire le milkshake avec une paille. Ses joues se creusent et son front devient blanc.
Gel de cerveau,
allait-elle lorsqu'elle finit par lâcher la paille. Elle trempe soigneusement chaque frite dans le ketchup et mange avec un petit sourire aux lèvres.
Tu es qui déjà, tu disais ?
Je suis une amie de Sofia, explique Saga.
Ah oui, c'est ça.
Est-ce qu'elle a pu faire semblant d'être une prostituée ?
Faire semblant, tu veux rire ? On a eu un client à deux une fois dans un local à poubelle. Le gars l'a enculé, je sais pas si tu appelles ça faire semblant.
Le visage de Tamara se relâche soudain de nouveau, comme absorbé par un souvenir.
Pourquoi tu as arrêté ton boulot d'escorte à Stockholm ? Demande Saga.
Toi aussi t'as du potentiel, t'irais loin.
J'ai des contacts ? J'ai été mannequin lingerie.
Mais sans lingerie, dit Tamara secouée d'un rire silencieux.
Tu as eu un client un jour à Djursholm, une grande villa au bord de l'eau. Il se faisait probablement appeler Ville, dit Saga calmement.
Peut-être bien, réplique Tamara en mâchant ses frites, la bouche ouverte.
Tu te souviens de lui ?
Non,
bâille Tamara, et elle s'essuie les mains sur sa jupe et renverse le contenu de son sac à main sur la table. Une brosse à cheveux, un rouleau de sac plastique, un rouge à lèvres, un bout de crayon Kohl, des préservatifs et un flacon d'eau de parfum Victoria's Secret roulent sur la toile cirée. Saga note que Tamara a trois ampoules de pétidine, une drogue extrêmement addictive. Elle sort un des 10 comprimés d'un joli bleu clair d'une plaquette de Valium et l'avale avec du Pepsi. Saga attend patiemment qu'elle ait remis ses affaires dans son sac, puis elle montre une photo du ministre des Affaires étrangères.
« Celui-là, j'en ai rien à foutre, »
dit Tamara en serrant les lèvres.
« Est-ce qu'il a parlé au téléphone avec quelqu'un quand tu étais chez lui ?»« Sérieusement, il était stressé, il buvait trop, disait sans arrêt que les flics feraient mieux de se tenir au garde à vous. Il l'a dit genre 100 fois à peu près, »
rigole-t-elle. « Que la police devait se tenir au garde à vous ?»
Ouais, et qu'il avait un mec avec 2 visages à ses trousses.
Elle boit encore du Pepsi, fait s'entrechoquer les glaçons en secouant le gobelet.
De quelle manière était-il à ses trousses ?
J'ai pas demandé.
Tamara continue de manger ses frites trempées dans du ketchup.
Qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant de 2 visages ?
Je sais pas, il était bourré. Il voulait peut-être dire que le mec avait une double personnalité,
propose Tamara.
Qu'a-t-il dit d'autre à propos de cet homme ?
Rien. Ça voulait rien dire, c'était juste des mots en l'air.
Il devait le rencontrer ?
Je sais pas, il a rien dit d'autre. Moi je voulais juste qu'il passe un bon moment, alors je l'ai fait parler de tous les tableaux qu'il avait sur les murs.
Il s'est montré violent avec toi ?
C'était un gentleman,
répond-elle brièvement. Tamara prend le sachet de bonbons sur la table, se lève et part en titubant en direction de l'entrée. Saga la suit lorsque son téléphone sonne. L'écran lui indique que c'est son collègue Janus Mikkelsen. Elle effleure le symbole vert du bout du doigt, approche le téléphone de son oreille et répond.
Mawar, on a visionné toutes les vidéos de surveillance sur le disque dur du ministre des Affaires étrangères, 13 caméras pendant 2 mois, près de 20 000 heures de film, annonce Janus.
On voit le tueur ? Il est venu repérer les lieux ?
Non, mais une autre personne est nettement visible sur une des vidéos. Il faut que tu vois ça. Appelle quand tu arrives devant les bureaux et je descends t'ouvrir.
Saga sait que Janus est bipolaire et elle comprend au ton de sa voix qu'il est entré dans une phase maniaque, que pour une raison ou une autre, il n'a pas pris ses médicaments.
Tu sais quelle heure il est ?
Demande Saga.
Peu importe, répond-il vivement.
Il faut que je dorme. On se verra demain,
dit-elle doucement.
Dormir. Répète Janus, puis il rit à gorge déployée, lisant dans ses pensées.
Ne t'en fais pas pour moi, Saga, je suis simplement investi dans mon boulot, exactement comme toi.
Elle raccroche et se dirige vers le parking, voit la circulation et la large autoroute grise dans l'obscurité en contrebas. Puis elle appelle Jeannette. Sofia semble avoir dit la vérité depuis le début. C'est une prostituée nullement mêlée au meurtre.
Mais alors, pourquoi l'a-t-on épargnée ?
Saga s'arrête devant la voiture avec la nette sensation qu'ils ignorent encore tout
des motivations de l'assassin.